Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Notre rétro-sonore, comme chaque samedi, nous sommes le 26 juin. Le 26 juin 1945, 50 pays signaient la Charte des Nations Unies après 2 mois de travail et de conférences à San Francisco aux États-Unis. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, allait remplacer la Société des Nations. C'est notre rétro du jour.
San Francisco est devenu le berceau du changement mondial. En juin 1945, la guerre avait coûté la vie à des millions de personnes. À un moment où il semblait impossible de trouver un terrain d'entente, 50 nations se sont réunies dans la baie de San Francisco pour conclure un accord.
Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stettinius reçoit les représentants des Nations Unies, parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Et voici l'usine aux nouvelles d'où partiront à travers le monde les télégrammes et les messages. M. Stettinius va ouvrir les débats, et il le fait en frappant sur la tribune les 3 coups rituels du lever de rideau.
The Conference of the United Nations on International Organization is now convened.
Puis il passe la parole au président Truman, qui de Washington s'adresse par radio aux membres de la conférence. Le monde, dit le président des États-Unis sans renaître sa foi dans la force morale du principe de justice, les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix.
We must learn to live together in peace.
Puis les chefs des délégations des grandes puissances viennent l'un après l'autre s'associer aux espoirs du président des États-Unis, M. Molotov, chef de la délégation soviétique. M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, apporte l'adhésion du Royaume-Uni et la France s'associe à ces paroles d'espoir par la voix de M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères.
C'est quoi l'ONU ? C'est l'Organisation internationale des Nations Unies. Voici son drapeau. L'ONU est installée à New York et regroupe 193 nations, soit quasiment tous les pays du monde. Mais pourquoi ont-ils formé cette organisation ? Car après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 51 pays ont voulu maintenir la paix dans le monde durablement. Ainsi, cette super organisation a pour mission d'éviter l'apparition de conflits entre les pays.
Peacekeeping, au sens strict, veut dire garder la paix. Notre problème, nous n'avons pas réellement. Il faut donc essayer de la construire, de la trouver, de la consolider quand elle existe et qu'elle est fragile. Et il faut parfois arriver à l'imposer, la paix, quand les acteurs ne le veulent pas.
Et quand, malgré son travail, des violences éclatent, l'ONU arbitre alors ses conflits pour limiter les dégâts. Pour cela, elle emploie 110 000 personnes, appelées « casques bleus ». C'est sa force d'action. Les casques bleus protègent les populations des pays en guerre. Où ils apportent de la nourriture, des soins, des programmes d'éducation. Ces casques bleus assurent aussi le respect de la démocratie, par exemple en surveillant le bon déroulement d'élections.
À quoi sert l'ONU ? Objectif ? Assurer la paix dans le monde par une action rapide et efficace. Elle y parviendra, parfois, mais son histoire est aussi et surtout marquée par la guerre larvée entre les grandes puissances. Pourtant, lors de la conférence de San Francisco, qui pose les fondements des Nations Unies, le ministre français s'enflamme.
La France se dévouera d'un cœur fervent à la grande tâche de garantir au monde la sécurité pour tous et le droit de chacun.
Mais très vite, les relations vont se tendre entre l'URSS et l'Occident, à commencer par le blocus de Berlin.
Berlin, à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte.
Puis il y aura la guerre de Corée, le Vietnam, le Moyen-Orient. En 1960, Pierre Tchernia, alors grand reporter pour l'émission 5 colonnes à la une, a eu ce mot assez juste pour qualifier l'ONU et ses blocages.
Sous le pont de Brooklyn coule l'East River et sur la rive, l'ONU. Cette sorte de grand frigidaire de 38 étages, flanqué de 2 bâtiments plus bas, qui se dresse à New York, au bout de l'île de Manhattan, à 2 pas de l'Atlantique.
Oui, un frigidaire, l'histoire de l'ONU est traversée par une succession de veto des membres permanents du Conseil de sécurité, bloquant tout projet de résolution.
L'attaque en règle menée par M. Khrouchtchev contre le secrétaire général des Nations Unies, M. Hammarskjöld, aura sans doute constitué l'un des moments les plus étonnants de la session de l'ONU.
Sur les 240 vétos, près de la moitié sont déposés par l'URSS, puis par la Russie. Des blocages qui, à chaque fois, interrogent les limites de la diplomatie.
Elles ont élaboré et signé la Charte des Nations Unies, s'engageant à œuvrer de concert en vue d'atteindre la paix, la prospérité et les droits humains dans le monde.
Today, we face a global pandemic, and worldwide, people rightly raise their voices against racism. Confronting problems is a start, but we also have to solve them. We have a timeless guide to tackle our shared challenges and fix the world's fragilities. The guide is the United Nations Charter, and its principles ring just as true today. The United Nations was founded before threats like cybercrime and online hate speech emerged, but our charter shows how to rise to these challenges too. Let us realize this vision of peace, human rights and justice for everyone by joining together with humanity, with unity, with each other.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.